En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL, jusqu'à 14h30, le grand quiz des histoires de France.
Bonjour les amis, bienvenue sur RTL, merci d'écouter RTL et vous savez qu'aujourd'hui c'est un peu particulier puisque nous sommes installés au Puy du Fou qui est une destination qu'avec Clémentine nous affectionnons tout particulièrement comme chaque année, nous venons ici pour l'ouverture ou le lancement de nouvelles manifestations, nouvelles attractions. Clémentine, bonjour Madame Lafontaine.
Et bonjour Laurent, alors comme vous voyez j'ai survécu à la Reine et où Jean-Sébastien Petit-Demange hier voulait me livrer au Lion mais alors j'ai résisté et me voici parée pour l'émission.
Voilà, on va vous parler évidemment de cette nouvelle attraction que nous avons découverte, qui est celle de La Fontaine, nouvelle ouverture, et puis évidemment de ce parc que nous visitons avec plaisir et gourmandise avec Clémentine depuis hier. C'est vrai qu'on s'y régale dans ce parc, hein, chaque année renouvelée.
Écoutez-moi Laurent, je ne sais pas si je peux parler tellement du Puy du Fou, parce que je suis une inconditionnelle de cet endroit que j'adore, tout comme vous, et je pense qu'on va finir par croire que j'en suis actionnaire. Alors je vous dis tout de suite, ça n'est pas le cas, mais vraiment, c'est un endroit absolument merveilleux.
On est très
satisfait. Français amoureux d'histoire doit impérativement avoir fait un, voire plusieurs séjours dans son existence.
Eh bien écoutez, en tous les cas, aujourd'hui, il y en a deux, nous leur souhaitons, qui vont prendre plaisir à venir pour un séjour pour quatre personnes au Puy du Fou, permettant d'assister à la Cinécénie. La Cinécénie, c'est le soir 3200 bénévoles qui retracent un spectacle qui raconte le destin symbolique de la famille Maupilier du Moyen-Âge à la Seconde Guerre mondiale. Absolument étonnant, dans un décor naturel. Vous irez à la villa gallo-romaine prendre vos petits déjeuners. Évidemment, vous vous baladerez dans le parc à la découverte de tout ce qui fait le joyau de ce Puy du Fou. Bien qu'en plus, aujourd'hui, il y ait l'ordinateur portable et l'intégralité des livres historiques Larousse. Mais qui donc, me direz-vous, Clémentine ?
Mais qui donc, Laurent ?
Va être avec nous sur l'antenne. Eh bien, c'est Marie qui est avec nous. Bonjour, Marie.
Bonjour. Bonjour, Laurent. Bonjour, Clémentine.
Bonjour, Marie.
Marie, vous êtes prof de français. Vous jouez avec votre fille Alba. C'est bien ça qu'on va découvrir dans un instant. Mais vous êtes passionnée d'histoire également. Mais quelle période de l'histoire vous passionne-t-elle ?
Alors, essentiellement l'Antiquité gréco-romaine, mais aussi le XVIIe siècle.
Bah écoutez, vous allez être ravis. On vous souhaite vraiment l'Atrium romain pour quatre personnes parce que vous allez effectivement dormir à la villa gallo-romaine et vous irez à l'Atrium, à l'hôtel l'Atrium. Et vous allez voir là des femmes en toge, en spartiate vous servir. On y sert l'eau et le vin dans des amphores. Écoutez, on vous le souhaite. Hein, ce séjour pour quatre personnes, ça sera en fin d'émission tout à l'heure. Marie, je disais que vous vous êtes inscrite. Déjà, vous vivez à Soisy, près de Montmorency, dans le Val d'Oise.
Oui.
C'est ça. Et vous êtes avec votre fille Alba. Bonjour Alba.
Bonjour.
Alba, 13 ans, hein, c'est bien ça Alba?
Oui, c'est ça.
Tu es en 5e. Oui. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans l'histoire? Tu es comme maman, c'est l'Antiquité?
Oui, c'est ça.
D'accord, principalement quoi. On peut même jouer un petit peu sur d'autres périodes, non, parfois? T'aimes tout en histoire?
Oui.
Bon, alors on va y aller les filles. On y va pour un bonus. Et aujourd'hui, notre bonus, c'est un bonus, écoutez bien, Triomphe romain.
Ah oui, il y a quelque chose. Hein.
C'est pas mal. Hein.
Ah, c'est beau, ah oui. Ah, mais c'est la musique qu'on entend dans l'arène, justement.
Oui, ce
ça.
Sont les arènes du Puy du Fou.
Magnifique.
C'est la musique des arènes du Puy du Fou. Vous savez qu'il y a des arènes reconstituées ici. Vous avez les lions qui sont la chef. Sainte Blandine qui est prête à se faire dévorer par les lions, oui. Qui va être sauvée. Les chars qui tournent autour. Clémentine n'en peut plus.
Sainte Blandine, elle a fini dévorée
oui.
par un...
Oui, la pauvre.
Enversé par un taureau, en tout cas.
Voici vos trois questions. Bonne chance à toutes
Lyon.
Les deux, Marie et Alba.
Merci.
Écoutez
Merci.
Bien. Quel écrivain philosophe demeura et vécu heureux à Montmorency, c'est-à-dire là où vous habitez, où il écrivit notamment La Nouvelle Héloïse ou encore L'Émile?
Eh bien, c'est Jean-Jacques Rousseau.
Tout à
Bravo.
Fait.
Le contrat qui n'est pas social est rempli. Allons-y. Quel est le principal dieu romain équivalent du dieu grec Zeus?
Jupiter.
Joli.
C'est bien, c'est Alba qui a répondu, me semble-t-il, en plus. Bravo.
Oui, c'est ça.
Alba, écoute, magnifique, bravo, bien joué. Quelle reine d'Égypte séduira successivement César et Marc-Antoine?
Cléopâtre.
Bravo.
Oui, bravo. C'était pas très très difficile non plus. Est-ce que vous en connaissez d'autres, des reines d'Égypte, là, à Tchepsout? Mais elle n'a pas dû rencontrer César.
À Tchepsout, non, pas beaucoup. Marc-Antoine, ça m'appelle la bataille d'Axione, qui a été remarquablement filmée dans Cléopâtre de Mankiewicz, vous savez, au moment où il s'enfuit.
Ouais. Avec la dépression post-axiome, ça.
Oui, c'est ça. Ouais, alors attention, les filles, bravo, vous partez avec votre bonus. On va jouer pour l'intégralité des livres historiques Larousse dans un instant, évidemment. Et cette fois-ci, c'est Alba, qui a 13 ans, qui est avec sa maman et qui habite Montmorency, qui va jouer et qui va peut-être tenter, et ce séjour où nous sommes installés ici, au Puy du Fou en Vendée, où nous nous régalons et on va vous parler des nouvelles attractions. Mais ça, seulement dans un instant sur RTL.
En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL, le grand quiz des histoires de France, Laurent Boyer.
Avec la reine Clémentine, nous sommes installés ce week-end dans notre parc.
L'impératrice, si vous voulez bien.
Bien, madame. Bien, princesse. Nous sommes au Puy du Fou, comme on vous l'a dit, en direct, où RTL s'est déplacé ce week-end. Et nous jouons avec Alba et Marie au grand quiz des histoires de France. C'est Alba qui a 13 ans, qui va ouvrir. Elles ont leur bonus et l'utilisent à leur gré, évidemment. Est-ce que tu es prête, Alba?
Oui.
Voici ta première question. Bonne chance. Comme nous ne sommes pas bien loin de Guérande, quel était le nom de l'impôt sur le sel? Il y avait un impôt sur le sel. C'était quoi son nom, à ton avis, Alba?
La gabelle.
Bien joué, Alba. La gabelle, impôt qui fut prélevé en France du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne. Mais alors, au fait, Clémentine, pourquoi un impôt sur le sel? C'est quand même un peu curieux comme idée, non?
Ben non, Laurent, ça n'était pas si curieux que cela, vous allez le comprendre. Mais d'abord, une petite précision sur l'origine de ce mot gabelle. Gabelle vient du mot arabe kabbalah, qui signifie taxe. Alors, pendant des siècles, le sel fut très précieux, car il était le seul moyen de conserver les aliments. Avec le sel, on faisait des salaisons, c'est-à-dire des viandes et des poissons séchés, qu'on pouvait
consommer plus tard. Quoi.
Exactement. Donc le sel devient assez vite une monnaie d'échange et il arrivait même que l'on soit payé en sel.
Ah, c'est le mot salarium, en fait, qui signifie ration de sel en latin. Ça a même donné le mot salaire par la suite.
Tout à fait. Je pense que nombreux sont ceux qui touchent un salaire sans savoir que cela a un rapport direct avec le sel. Alors bref, le sel était si précieux qu'il est devenu un monopole royal et la population ne pouvait s'en procurer qu'en l'achetant au roi déjà taxé. La gabelle représentait grosso modo 6% des revenus royaux, donc c'était un important impôt.
Dites donc, si aujourd'hui on râle contre la TVA ou la CSG, en fait, entre le Moyen-Âge et la Révolution, on aurait râlé contre la gabelle ou encore la dîme.
Oui, on aurait vraiment râlé. Alors la gabelle a été supprimée sous la Révolution, Laurent, mais rétablie ensuite par Napoléon. Et vous ne devinerez jamais en quelle année a été abolie la gabelle, à votre avis.
La gabelle, la taxe sur l'impôt sur le sel, je ne sais pas, Napoléon III, mettons, non?
Eh bien, la gabelle a été abolie en 1945. De sorte que votre grand-père a dû encore payer la gabelle. Hein. Ça vous épate, ça, hein?
Ça, alors, 45, on a arrêté la gabelle, c'est
la gabelle.
Dingue. Dingue. La dîme,
enfin,
c'était le 1/10 de la récolte,
hein,
c'est ça. Hein. Il y avait la taille, la dîme, la gabelle.
La capitation, les impôts sur les portes et fenêtres, donc on n'est pas les contribuables les plus malheureux.
Voici la deuxième question pour Alba, qui évidemment marque son premier point. Bien joué, Alba. Écoute bien. Bonne chance, Alba. Quel célèbre personnage d'Alexandre Dumas fut gouverneur de Lille? Ça, ce serait une question pour ta maman qui est prof de français.
D'Artagnan.
Mais joli. Voilà, allez bien, c'est Alba. Charles de Batz-Caltelmore, comte d'Artagnan, né en 1611, mort en 1673. Donc, à l'âge de 62 ans, Clémentine.
Ah oui, il n'était plus de toute première jeunesse. Hein.
Oui.
Il a fait une très brillante carrière qui s'est effectivement achevée par un poste de gouverneur de Lille, une grande cité de 50 000 habitants et une ville qui, sous Louis XIV, avait une importance stratégique et que Louis XIV avait gagnée en 1667.
Il n'était d'ailleurs pas populaire du tout dans la région, car il ne pensait en fait qu'à retourner sur le champ de bataille.
C'était pas un rond de cuir, d'Artagnan.
Tu parles d'Artagnan. Oui. Il va d'ailleurs en avoir l'occasion quand Louis XIV entreprend la guerre de Hollande en 1672.
Et
Clem.
C'est pendant la guerre de Hollande que d'Artagnan va mourir héroïquement le 25 juin 1673 lors du siège de Maastricht.
Ça dit
quelque chose,
amis.
Maastricht.
Tu parles Maastricht, c'est pas uniquement le nom d'un traité européen, c'est aussi le nom d'une ville où d'Artagnan mourut donc d'une balle dans la gorge alors qu'il voulait aider de jeunes officiers qui subissaient une contre-attaque, c'est ça?
Alors il est tué, donc une balle dans la gorge, vous l'avez dit, et quatre mousquetaires de sa compagnie vont se faire tuer aussi pour aller rechercher son corps très en avant dans les lignes hollandaises. Louis XIV, à l'insu de tous, fera célébrer une messe dans sa chapelle privée. Et voilà ce qu'il écrit à la reine, Laurent.
J'ai perdu D'Artagnan, en qui j'avais la plus grande confiance. Elle m'était bon à tout. D'Artagnan et la gloire ont le même cercueil.
Oh, ce que vous faites bien, beau, Louis XIV, Laurent.
Ouais, c'est Louis XIV.
Là, vous avez manqué une vocation.
Je
de
fais bien louer,
Alors, le lieu de la sépulture de D'Artagnan est inconnu. On pense qu'elle se trouverait peut-être dans l'église Saint-Pierre et Paul de Volder, près de Maastricht, puisque c'est dans ce village que Louis XIV et ses mousquetaires avaient établi leur quartier. Et c'est là que D'Artagnan et ses hommes durent partir à l'assaut des remparts de la ville et où il trouva la mort. Par
alors, vous savez quoi? À l'époque, les officiers morts au combat étaient inhumés dans l'église la plus proche. Il y a donc de fortes présences présomption, Clémentine, vous me l'avez dit, pour que D'Artagnan soit enterré dans l'église de Volder. Seul, évidemment, des fouilles permettraient de confirmer l'hypothèse
avec
une recherche.
C'est vachant de penser que D'Artagnan est en Hollande, chez les Bataves, au lieu d'être enterré chez nous.
Et voici la troisième question. Ça va, Alba? C'est bien joué. Hein. Deux bonnes réponses, Alba et Marie. C'est bien parti, les filles.
Merci.
Allez, Alba, on y va. De quel intendant des finances de Louis XIV, dont le nom signifie « écureuil » en angevin, c'est-à-dire la langue d'Angevine, la devise était « Jusqu'où ne montera-t-il pas ?» Nicolas Fouquet ou Jean-Baptiste Colbert ?
Nicolas Fouquet.
Eh bien, écoutez, Alba, qui a 13 ans, classe de 5e, vient de nous faire un sans faute, les doigts dans le nez.
Bravo.
Tranquille.
Bravo à toutes les deux.
Bravo les filles.
Nicolas
Fouquet, marquis de Belle-Île. Un Fouquet est en effet en patois de la région de l'Ouest, en Angevin particulièrement, donc dans la région d'Angers. Un écureuil dont la devise « Jusqu'où ne monterai-je pas ?» était tout à fait approprié.
Ah, c'était bien trouvé, oui, pour un
écureuil.
Un monsieur qui portait le nom d'écureuil. Alors, il a fini par descendre, malheureusement, le malheureux Fouquet, jusqu'à la forteresse de Pignerol, où il mourut le 3 avril 1680, à l'âge de 65 ans, c'est-à-dire avec 3 ans de plus
que notre ami D'Artagnan.
Hein, soyez à ce qu'on dit. Hein.
Mais
avant sa chute en 1658, Fouquet acheta Belle-Île à Paul de Gondi, devenu cardinal de Retz, le fameux frondeur persécuté par Louis XIV et Mazarin.
Alors, Nicolas Fouquet, armateur issu d'une riche famille alliée des principaux parlementaires bretons, était devenu surintendant des finances en 1653. Une fois propriétaire de Belle-Île, il va achever les fortifications et construire une jetée et même des entrepôts. Belle-Île, avec un S à l'époque, devient alors pour quelques années, avec une dizaine de navires, le principal centre d'armement du commerce entre l'Espagne et les Indes.
Espagnol. Et alors l'île abritait alors 200 hommes au service de l'entreprise de Fouquet, Fouquet, on le sait, est arrêté le 15 septembre 1661 à la suite d'un complot mûrement préparé par son adversaire Colbert.
Le projet d'extension du port est stoppé net. L'île fut confisquée illico presto, comme toutes les libertés bretonnes le seront par Louis XIV venu à Nantes. Et le commerce maritime sera ruiné. Comme à peu près le royaume dans son entier, d'ailleurs, par les guerres du grand roi avec les autres nations.
Oui,
hein, il a abusé, Pépère.
Oui.
Hein. Enfin, c'est notre roi soleil.
C'est comme ça que vous parlez de Louis XIV.
Oui, c'est un ami, Pépère. Dites donc, les filles, l'intégralité des livres historiques Larousse est gagnée, Alba.
Merci.
Je t'en prie, nous voilà bien. Marie doit être
ravie. Ça, c'est fait, comme dit généralement mon ami Lolo.
Ça, c'est fait, les filles, c'est bien. Vous allez, Marie, votre maman, Alba, va pouvoir jouer dans un instant, uniquement pour quelques temps complémentaires pour la finale tout à l'heure que nous vous souhaitons ici même. Nous sommes installés avec Clémentine depuis hier où nous bagnodons dans ce magnifique parc du Puy du Fou.
Nous bagnodons, nous batifolons,
nous apprécions beaucoup. C'est le grand quiz des histoires de France en direct
du Puy du Fou. Nous
On baragouine beaucoup. Je vais stopper de baragouiner, on va essayer de chanter un peu. Allons-y, c'est parti, c'est sur RTL.
En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
Le grand quiz des histoires de France sur RTL.
Et nous sommes en direct du Puy du Fou avec Clémentine et nous sommes avec Marie et Alba, sa fille qui vient d'ailleurs de gagner aisément avec 3 bonnes réponses l'intégralité des livres historiques Larousse. Vous êtes fière de votre fille, Marie, non ?
Très fière.
Vous avez vu, sans hésitation, elle a été très très bonne. Donc, détendez-vous, vous allez jouer pour du temps complémentaire pour la finale, mais cela dit, vous en aurez besoin pour venir ici au Puy du Fou, un séjour pour 4 personnes, que nous vous souhaitons avec Clem, vous allez vous régaler.
J'espère, oui.
Allez Marie, on y va, le prof de français, on essaie ?
Oui.
Alors, on vient de parler de Fouquet à l'instant. Voici une question qui le concerne encore. Quel homme de lettres, vous voyez que c'est fait pour vous,
resta
fidèle à Fouquet après son arrestation ? N'ayez crainte, j'ai 2 possibilités. Molière ou La Fontaine ?
Non, La Fontaine.
Bravo. Sans hésitation, Marie. Jean de La Fontaine qui resta fidèle à Fouquet après son arrestation par D'Artagnan. Voyons, on revient à D'Artagnan.
Oui.
C'était le 5 septembre 1661.
Voilà.
Vous y étiez, Clémentine ?
Oui, j'y étais tout à fait. C'était très triste. Hein. C'est extrêmement poignant, cette arrestation, sans doute. D'autant que Fouquet était alors l'homme le plus puissant du royaume après le roi. Il était également le protecteur de nombreux artistes, Perrault, Molière, Poussin et donc La Fontaine. Il a fait également construire par Levaux, Lebrun et Lenôtre le château de Vaux-le-Vicomte qui préfigurera Versailles. Nos auditeurs de RTL connaissent ça par cœur.
Hein. C'est justement après la fameuse fête donnée dans son château pour le roi, le 17 août 1661, où nous étions avec nos grandes robes, Clémentine, que Louis XIV poussé par Colbert,
ben
le
oui,
sycophante délateur, décida de sa chute.
Le Vétulus traditor, un vieux traître. Alors Fouquet, lui, voulait épater le roi, évidemment. Alors il était un petit peu trop orgueilleux, mais il n'a fait qu'exacerber sa jalousie. Louis XIV le fait donc arrêter quelques jours plus tard pour malversation. Et parmi les nombreux artistes qui l'entretenaient, eh bien, nombreux sont ceux qui soutiendront Fouquet, mais La Fontaine sera de cela. Il écrit et publie une élégie aux nymphes de Vaux, qui est une sorte d'hommage à Fouquet.
Vaux, V-A-U-X, évidemment.
Ah, bah oui.
Remplissez l'air des cris de vos grottes profondes, pleurez, nymphes de Vaux, faites croire vos ondes.
Oui, c'est pas les vœux comme Vaux, comme la côte de Vaux, hein. Je crois qu'on avait bien compris. Merci.
Il est long ce poème. Alors, on l'a mis sur RTL.fr.
Oui, alors, c'est une très belle élégie qui est dédiée bien sûr à Fouquet et elle vaudra à La Fontaine la disgrâce royale. Mais enfin, il parviendra à trouver d'autres protecteurs qui lui permettront d'exprimer son talent, notamment Madame de Montespan, favorite du roi, qui sera une protectrice de La Fontaine.
Mais en 1683, quand La Fontaine est élue à l'Académie française, eh bien écoutez, Louis XIV bloque sa réception.
Ben oui, hein, il était rancunier, votre Louis XIV.
Bah, tiens,
hein.
Oui.
Alors La Fontaine devra donc attendre quelques mois, Louis XIV exigeant que son historiographe Boileau soit d'abord élu avant La Fontaine et ce sera fait finalement en 1684. La Fontaine rentre enfin à l'Académie. Ironie de l'histoire, il hérite du siège de Colbert, l'homme qui précisément avait provoqué la chute de Fouquet.
Ah oui, ça c'est quand même, elle est incroyable cette histoire. Dites-donc, alors à ce propos, le monde imaginaire de La Fontaine est la grande nouveauté du Puy du Fou cette année.
C'est absolument charmant, c'est délicieux. C'est un petit parcours dans lequel on peut entendre les différentes fables de La Fontaine qui sont dites à la fois par Depardieu et par Laurent Deutsch. Et c'est scénographié en somme, c'est-à-dire on voit le corbeau, le renard, le fromage, le chêne et le roseau. Le chêne s'adresse au spectateur, la poule aux œufs d'or. On voit une poule, un œuf qui dégouline dans une sorte de rampe reliée au poulailler. C'est d'une poésie, c'est merveilleux, c'est vraiment
c'est
une promenade champêtre
et
délicieuse. Ah oui.
C'est la nouveauté de l'année ici au Puy du Fou que l'on vous souhaite de découvrir. Marie et Alba, en tous les cas, c'est bien parti pour vous, mesdames, puisque pour l'instant, c'est un sans faux, donc 40 secondes pour la finale. Voici votre seconde question. Marie, bonne chance.
Merci.
Quelle fut la dernière grande bataille dans la guerre de succession de Bretagne ? La bataille d'Auray ou la bataille de Picquigny ?
Allez, répondez selon votre intuition.
Alors, voilà. J'aurais dit Picquigny.
Bon, ben vous voyez, c'est pas grave. De toute façon,
c'était pas ça.
C'est la bataille d'Auray, en fait. 29 septembre 1364, c'est la dernière bataille de la guerre de succession de Bretagne. Clémentine va tout nous dire, mais c'est la guerre... régional sur fond de guerre de 100 ans, hein, Clément.
Ah oui, alors c'est un petit peu compliqué parce que c'est une guerre de succession qui durait depuis 25 ans et il y avait deux prétendants pour prendre la Bretagne, la position de la Bretagne. Il y avait donc Jean IV de Montfort et Charles de Blois. Et ces deux messieurs, pour tout arranger, ils étaient demi-frères. Alors l'un des deux était soutenu par les Anglais et l'autre était soutenu par les Français.
Donc à Auray, on a une armée anglo-bretonne de 8000 ordres aux ordres de Jean IV de Montfort.
Et en face, une force franco-bretonne de 10 000 hommes soutenant le parti de Charles de Blois. Donc les deux demi-frères, hein, ils ont des alliés de nationalités différentes. Et sous les ordres de Charles de Blois, qui avons-nous ? Eh bien, le grand, j'exagère un peu, le grand petit du Guesclin, donc l'un des plus célèbres hommes de guerre français.
Little Big Man, comme on l'appelait.
Ah, oui.
Dont nous aimons d'ailleurs à rappeler la devise en toute occasion, Clémentine.
Ah, oui. On aime beaucoup, mais allez-y, Laurent, je vous laisse.
Le courage donne ce que la beauté refuse.
C'est une extraordinaire devise. Hein.
Celle-là, elle est belle.
Alors, depuis la guerre de 100 ans, du Guesclin ne cesse de harceler les Anglais, notamment dans la forêt de Brocéliande, et c'est ce qui lui a valu le surnom de Dog Noir de Brocéliande. Mais enfin, c'est vraiment comme chef de la guérilla dans la guerre de succession de Bretagne que du Guesclin va se faire un nom.
À Auray, le combat auquel il prend part sera acharné, car tous veulent que cette bataille mette fin à cette guerre longue et cruelle. De plus, la consigne a été donnée de part et d'autre de ne pas faire de quartier à celui des deux prétendants qui viendraient à tomber aux mains de ses ennemis.
Alors, c'est un combat tout à fait enragé, mais les troupes de Charles de Blois lâchent pied. Charles, renversé d'un coup de lance, est fait prisonnier. À ce moment-là, un Anglais, un félon, un inconnu au bataillon, un étranger, pas de chez nous, s'approche de Charles. Et contrairement à tous les usages, il lui assène un violent coup de dague à travers le visage et le tue.
De son côté, Bertrand du Guesclin, se battant encore avec une épée brisée, est fait prisonnier par John Chandos, conseiller du prince noir,
qui lui lance...
Le prince noir. Qui lui lance, Vous serez plus heureux une autre fois, messire Bertrand.
Oh, j'adore quand vous faites,
ça
vous faites
trouille,
John
hein.
Sandoz, conseiller du prince noir. Ça aussi, vous faites bien. Aussi
bien, j'aime bien, je le tiens.
Alors,
je le tiens.
Conséquence, le but de cette bataille terrifiante est quand même atteint. Il n'y a plus qu'un seul prétendant au duché, Jean IV de Bretagne, comte de Montfort, est déclaré vainqueur. Les pertes des deux côtés sont considérables et le cadavre de Charles de Blois n'est identifié que le lendemain, quelques mois plus tard, par le traité de Guérande, où on fait le sel de Guérande, dont nous avons parlé il y a 5 minutes. Le roi de France reconnaît Jean IV de Bretagne comme duc de Bretagne.
Et voilà cette histoire que nous vous contons. On apprend plein de choses sur RTL dans le Grand Quiz des Histoires de France. Merci de nous écouter. En direct du Puy du Fou, on vous le rappelle. Et Marie et Alba, quel joli parcours. 4 bonnes réponses sur 5. Bravo, mesdames. De fait, l'intégralité des livres historiques est gagnée. Et vous partez avec 40 secondes pour la finale et peut-être ce séjour au Puy du Fou. Et pour vous, Marie, passionnée d'antiquité romaine, vous irez loger la villa gallo-romaine dans l'atrium. Et je peux vous dire que là, vous allez vraiment vous régaler. C'est un bonheur. On vous le souhaite en tous les cas. Dans un instant, on va jouer pour l'ordinateur portable. Il y aura 5 questions. Vous avez toujours votre bonus. Magnifiquement joué, Marie. Vous avez gardé le bonus pour l'ordinateur et pour votre fille Alba. Ça, évidemment, dans un instant sur RTL. Puisqu'il est, il est 14h.
En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL, jusqu'à 14h30, le grand quiz des histoires de France.
Aujourd'hui avec Marie et Alba, elles habitent Montmorency dans le Val-d'Oise. Elles jouent pour un séjour de 4 personnes ici au Puy du Fou et installée toute l'équipe d'RTL pour ce week-end. Et Clémentine, nous nous sommes régalés évidemment à découvrir ce parc depuis hier. Cela dit, bien parti pour Marie et Alba, sa fille. L'intégralité des livres historiques est gagnée. Nous allons jouer maintenant pour l'ordinateur portable. 5 questions. Il y a toujours évidemment le bonus, le triomphe romain qui est à votre disposition. Comment allez-vous Marie et Alba ?
Totalement stressée.
Oh non, les filles.
Non, là, vous avez vu, c'est quand même assez facile. Vous avez très bien répondu.
Ah, vous avez été très bonne. Marie, c'est à vous.
Oui.
Prof de français, je rappelle, Marie, passionnée d'antiquité romaine, qui nous l'a montré tout à l'heure avec des réponses immédiates. Voici votre première question. Et cette fois-ci, vous jouez pour, on vous l'a dit, l'ordinateur portable de votre fille, j'imagine.
Oui, oui, tout à fait.
Et pensez à votre bonus, là, il va servir à ce moment-là. Tiens, vous aimez l'antiquité romaine ? Écoutez, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient aurait pu être réunis sous le règne de Charlemagne. À votre avis, c'est vrai ou faux ?
Oui, c'est vrai.
Bravo. C'est vrai, et très peu de temps après la résurrection de l'Empire romain d'Occident, Clémentine.
En effet, Laurent, parce que Charlemagne a été couronné empereur le jour de Noël de l'an 800. Là, ça fait partie des dates que les Français connaissent bien. L'an 800, Charlemagne, Charles Martel, 1515, Marignan. Donc, l'an 800, couronnement de Charlemagne par le pape Léon III dans la basilique Saint-Pierre. Et ça, cela faisait 324 ans que l'Empire avait disparu.
Alors, il faut dire que cette question l'a tirée de Ça m'intéresse histoire, qui nous a passionnés justement sur Charlemagne. C'est le jour où Charlemagne a été couronné. C'est pour ça qu'on vous pose cette question aujourd'hui, évidemment plus développée chez notre partenaire Ça m'intéresse histoire. Donc Charlemagne, en fait, n'était pas vraiment content de la manière dont ça s'était passé.
Non, pas du tout, parce qu'en somme, il a été couronné par surprise. Il était rentré dans la basilique avec son fils, il se prosterne pour prier et au moment où il se relève, le pape lui dépose la couronne d'empereur sur la tête en fait par surprise.
Ouais, dites donc, attendez, c'est plutôt une bonne surprise cette affaire.
Ah non, pas vraiment, parce qu'en fait, ce qui était prévu, c'est que dans la tradition romaine, pour devenir empereur, il fallait être acclamé par la foule. Hein. C'est ça la tradition romaine.
Hein. Alors en Agilité,
exactement, comme Julien l'Aposta à Paris, il est acclamé par ses légionnaires et par le pape. Faut être acclamé. Et le pape, en court-circuitant, en somme, cette acclamation populaire, il devient celui qui fait les empereurs. En somme, le spirituel prend le dessus sur le temporel, puisque c'est le pape qui couronne l'empereur. Alors, en sortant de la basilique, Charlemagne n'était pas content du tout. Il aurait dit que s'il avait été prévenu du projet du pape, il ne serait jamais entré dans l'église.
Alors, dites-moi, je reviens à cette réunion des deux empires. Comment ça s'est passé ?
Parce qu'à Constantinople, à l'époque, règne alors l'impératrice Irène, une charmante impératrice qui fait crever les yeux de son fils pour prendre le pouvoir.
Oh, sympa.
Et elle voit d'un assez mauvais œil, on peut dire par conséquent, qu'un autre empereur fasse son apparition. Alors, ne pouvant s'y opposer, elle aurait proposé en 802 à Charlemagne de l'épouser et de réunir ainsi de nouveau les deux parties de Empire romain d'Orient et d'Occident.
Ouais, cela ne se fera pas de toute façon. L'Empire de Charlemagne disparaîtra en 843 quand ses petits-fils le partageront.
Et là, alors, nous vous renvoyons en effet, comme le disait Laurent, au l'article le jour où Charlemagne a été couronné dans Ça m'intéresse histoire.
Ouais, très bien fait. Hein. Voici votre deuxième question. Bravo, vous avez déjà une bonne réponse pour l'ordinateur.
Merci.
Bien joué, Marie.
Merci.
Bonne chance pour la seconde. Quel est le point commun entre Georges Clémenceau et le maréchal de France, Jean de Lattre de Tassigny, héros de la Seconde Guerre mondiale? Deux propositions, Marie. Tous deux sont nés à Mouilleron en Parède, en Vendée, où leur épouse était apparentée.
Est-ce... Non, là, je prends le bonus, le joker.
Alors, allons-y, c'est parti.
Alors, vous croyez que ça sifflote dans les arènes au moment des
lions.
On fait boulotter les premiers chrétiens, vous.
Ouais,
vous êtes vraiment décontracté.
Alors, écoutez...
Vous ne respectez rien.
Vous allez aller voir les arènes, là, ici, au Puy-du-Fou, c'est génial. Mais c'est génial, avec le vélum au-dessus, même quand il y a le soleil et tout. On y est, vraiment, on y est, hein. C'est Gladiateur et Russell Crowe hein, de Ridley Scott, hein, vous y êtes.
En jupette.
En jupette, oui, c'est ça. Alors, là bah, écoutez, le bonus Romanus va vous donner la réponse. Mmh. Tous les deux sont nés à Mouilleron en Parède, en Vendée, hein, Clem.
Oui, mais alors, ils ont également en commun leur rôle dans les deux guerres mondiales, leur signature au nom de la France lors des deux victoires, mettant fin aux deux conflits mondiaux et leur message d'unité nationale. Alors, à Mouilleron en Parède, alors il aurait fallu que je demande à quelqu'un du Puy-du-Fou.
Parède,
je crois. Est-ce qu'on dit le D ou pas dans Mouilleron en Parède? Non, on ne dit pas. Alors, on ne dit pas
Mouilleron
le D.
Parède.
Donc, c'est bien Mouilleron. En Parais, eh bien, il y a un mémorial consacré aux deux hommes, le Musée national des deux victoires.
Mais alors, dites-moi, est-ce que ces deux hommes se sont rencontrés?
Alors, ils n'étaient pas de la même génération, naturellement, mais lors de l'inauguration du monument aux morts de Mouilleron, Clémenceau fit le déplacement depuis Paris et le jeune capitaine Jean de Lattre offrit un bouquet au vieil homme d'État. Puis il fut reçu dans la maison de la rue Planchou par Clémenceau. Et Clémenceau, le voyant s'éloigner, aurait dit à son fidèle Albert Boulin, bah, dites, faites-le, là, faites Clémenceau.
Regardez-le bien, celui-là, et rappelez-vous de lui, il ira loin, très loin.
C'est bien, ça. On dirait Bijard quand vous faites ça.
Oui, le fait bien.
Alors, Clémenceau avait...
C'est
bon, vous faites bien aussi. Alors, Clémenceau avait raison, puisque Jean-Joseph-Marie-Gabriel de Lattre de Tassigny devint chef d'état-major de la 5e armée en 39, puis général de division en Tunisie en 41.
Écoutez ce que je vais vous dire. En août 42, il est pressenti par Jean Moulin pour prendre la tête de l'armée secrète, mais il refuse. Cependant, lorsque la zone libre est envahie par les Allemands, il refuse l'ordre de ne pas combattre.
Exactement. Et pour cela, il sera arrêté et condamné à 10 ans de prison.
Il s'évade de la prison de Riom, rejoint Londres puis Alger, est promu général le 11 novembre 1943 par le général de Gaulle. Il commande l'armée B qui devient la première armée française.
Oh non, mais il a un palmarès extraordinaire de Tassigny. En 1944, il débarque en Provence. Il va participer à la libération en marchant à ses troupes jusqu'au Danube. Et il représentera la France à la signature de la capitulation allemande le 8 mai 1945 à Berlin, au quartier général du maréchal Joukov.
Voilà, très vite, rapidement, pour ses faits d'armes en 1940. Mais par la suite, il deviendra commandant en chef en Indochine, blessé et très affecté par la mort de son fils en Indochine. Lui-même mourra d'un cancer. C'est le 11 janvier 1952. On a donc commémoré à Mouilleron, Parais, les 60 ans de sa mort, il y a quelques mois seulement. Claire.
Voilà. Et de Lattre de Tassigny a été élevé à la dignité de maréchal de France à titre posthume le 15 janvier 1952 lors de ses funérailles.
Et il est donc enterré au cimetière communal de Mouilleron en Parède, près de son fils Bernard, tué en Indochine le 30 mai 1951. Voilà l'intégralité de cette histoire que nous avons mis évidemment sur rtl.fr. Mesdames, bravo Marie, pour l'instant deux bonnes réponses. Vous avez bien joué votre joker. Voici votre troisième question, Marie. Bonne chance.
Merci.
En France, il n'y a que 4 statues de Louis XVI sur l'espace public. Est-ce vrai ou faux?
C'est vrai.
Bravo!
Ah oui, ça, c'est fallait le savoir. Hein.
Alors ça, je pense que vous l'avez fait à l'intuition, Marie. Hein.
Ah, complètement.
Eh bien, écoutez, votre intuition est bonne aujourd'hui, parce que avec cette bonne réponse, vous venez de gagner l'ordinateur portable.
Ah, c'est super. Alba est ravie.
Ah bah Alba, là, oui, c'est bien. Il est magnifique. En plus, vous l'aimez beaucoup, cet ordinateur portable,
oui,
Clem. Vous l'avez vu.
Je le trouve très mignon. Je l'ai déjà vu, en effet. J'ai eu cette chance.
écoutez, alors, on va vous donner la réponse. En France, il n'y a que 4 statues de Louis XVI sur l'espace public. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Louis XVI est vraiment le souverain maudit. Hein. Alors, écoutez, il y a une statue de lui à Nantes, près de Rennes, au château de Carduc. À Loréou-Bottereau, je ne sais pas si je prononce bien, c'est en Loire-Atlantique, pas loin d'ici, pas loin du Puy-du-Fou. Il y en a une à Sorèze également dans le Tarn, hein, Clémentine.
Oui, alors je signale d'ailleurs au passage que la statue de Louis XVI qui se trouve à Nantes date de 1823. On est donc en pleine restauration monarchique et qu'elle est du même sculpteur et de la même époque que celle de Loréou-Bottereau et de Rennes. toutes les statues de Louis XVI ont été détruites sous la Révolution française. Voilà pourquoi on n'en trouve plus que 4 en tout et pour tout sur notre territoire.
Mais cela n'empêche en fait en rien qu'il y ait de très nombreuses statues de Louis XVI, évidemment, dans les espaces privés, hein, c'est-à-dire les demeures aristocratiques ou par exemple chapelle expiatoire à Paris, où il y en a une, lieu où on retrouva sa dépouille après
tout
la Révolution.
Fait. Tout à fait, mais c'est sur l'espace public, il n'y en a que 4. C'est vraiment le roi maudit, hein. C'est pas Philippe... Philippe
ouais,
le Bel, c'est maudit, soyez maudit.
Voici.
Et ça va, Marie, ça va pas mieux, vous, hein.
Non, on n'est pas bien. C'est le Puy du Fou qui fait ça. C'est le Fou
on
du
est trop
Puy.
Au soleil, là, il fait trop.
3 points, bravo. L'ordinateur portable est gagné. Dans un instant, votre fille Alba va jouer uniquement pour du temps complémentaire pour la finale, bien que ce soit très important puisque c'est un séjour de 4 personnes que vous offre RTL et le Puy du Fou ici même dans le parc à la Villa Gallo-Romaine. Tout ça dans un instant sur RTL.
En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL. Laurent Boyer.
Le grand quiz des histoires de France
sur RTL.
Eh bien, cette fois-ci, c'est au tour d'Alba, qui a 13 ans, classe de 5e de jouer. Sa maman a fait un très joli parcours. L'ordinateur portable est gagné. Es-tu satisfaite, Alba ?
Bah oui, très.
C'est bon, ça, hein ? C'est bien, l'ordinateur portable.
Merci.
Écoute, là, tu joues pour du temps complémentaire pour la finale. Est-ce que tu es prête, Alba ?
Oui, je suis prête.
Alors, j'y vais. Bonne chance. Qui est couronnée reine de France le 13 mai 1610 à Reims ? Marie de Médicis ou Anne d'Autriche ? Le 13 mai 1610 à Reims.
Marie de Médicis ?
Tout à fait.
Oh là là, Alba, 13 ans, badaboum. Elle envoie Marie de Médicis, seconde épouse d'Henri IV. Elle n'est couronnée en 1610 alors que le mariage s'est déroulé le 17 décembre 1600.
Oui, c'est un petit peu traîné. Hein. Oui. En fait, c'est un mariage qui répondait à 2 attentes. Alors, l'une était dynastique. Il fallait un héritier à Henri IV puisqu'il n'avait pas réussi à avoir d'enfant avec la fameuse reine Margot. Hein. Mission parfaitement remplie puisque 9 mois après son mariage avec Marie naissait le futur Louis XIII. Et Marie de Médicis donnera en tout 6 enfants en 9 ans à Henri IV. Hein.
Mais dites donc, c'est une vraie maman italienne, votre Marie de Médicis.
Oui, c'est absolument ça. Alors, l'autre raison, elle était très, très fertile, cette dame. Et l'autre raison était économique parce que le royaume de France était ruiné par toutes ces années de guerre civile, les guerres de religion, je vous rappelle, et la famille de Médicis était une famille de banquiers italiens qui, eux, étaient les créanciers de la France. Donc, épouser Marie de Médicis, qu'on qualifiait à l'époque de grosse banquière, hein, c'était sympa, eh bien, par ce mariage, ça cela permettait d'annuler la dette du royaume de France auprès des Médicis, banquiers de la France.
Mais alors, dites-moi, pourquoi attendre toutes ces années pour le couronnement ? 10 ans, quand même.
Ben, parce que c'est toujours des problèmes d'intimité dans le ménage.
Ah voilà. Ah bah
c'est
oui,
Henri IV et Marie de Médicis, ils sont en temps des guerres, en somme. Alors, elle supportait assez mal les infidélités du roi. Il faut dire que tout de même, Henri IV, c'était quand même un joyeux coco. Oui. Et alors, pour affirmer son rang, eh bien, elle exige son couronnement. Mais le bon roi Henri ne cesse de repousser la cérémonie, en partie pour des raisons politiques, parce que Marie de Médicis était trop proche du parti catholique.
Eh bah oui, là, ça devait bien le gêner. Alors, dites-moi, il y a eu lieu ce couronnement, finalement,
oui, alors,
ou pas
non, alors, Henri IV a dû partir régler un petit problème avec les princes du Saint-Empire à la tête de ses armées. Hein. Il avait quand même du boulot. Et cela pouvait être dangereux et l'absence pouvait être longue. Alors, comme le dauphin était très jeune, il valait mieux couronner la reine pour lui donner davantage de légitimité. D'ailleurs, l'utilité du couronnement se fera sentir immédiatement. Le lendemain, le roi était assassiné par Ravaillac et Marie devenait donc régente du royaume de France.
N'a-t-on pas soupçonné Marie de Médicis d'être derrière ce petit assassinat ?
Oui, ben, il y a eu quelques rumeurs, mais elles étaient infondées. Alors, revanche, par superstition, eh bien, plus aucune reine ne sera sacrée.
Ah, quand même.
Il faudra attendre Joséphine avec Napoléon qui lui met la couronne sur la tête, mais c'est une impératrice.
Voici la deuxième question pour Alba, 13 ans. Écoute bien. Au Puy du Fou, le plus extraordinaire spectacle d'oiseaux dressés existe. On l'a vu, on adore ça, le bal des oiseaux, nous, c'est notre truc. Eh bien, à propos d'oiseaux dressés, lors de son débarquement manqué en France, Louis-Napoléon Bonaparte, futur de Napoléon III, emportait un aigle dressé dans une cage ou un perroquet ? Ça, la question, elle est...
J'adore. C'est moi qui l'ai faite, celle-là.
Ouais. Au Puy du Fou, le plus extraordinaire spectacle d'oiseaux dressés.
Un aigle dans une cage ou un perroquet ?
300 oiseaux. Donc, mais c'est magnifique, le bal des...
Ah, vous avez eu le temps de les compter.
Oui, mais c'est moi, je suis... Mais je vous ai dit, je pleure quand je vois ce spectacle. Je pleure devant le bal des oiseaux au Puy du Fou, c'est vrai. Dites-moi, Alba, la bonne réponse, c'est quoi, alors ? Napoléon III, il emportait un aigle ou un perroquet dans une cage ?
Là, je sais pas, je vais dire perroquet.
Ça aurait pu. Non, non, il n'y avait pas de spitaciste aux côtés de Napoléon III. Il y avait juste un répétiteur derrière. Un aigle dressé dans une cage. Et cela se passa au cours de la désastreuse tentative de coup d'État supposé, s'achevée par la prise du pouvoir, qui valut d'ailleurs au futur Napoléon III de passer quelques années emprisonné au fort de Ham.
Oh oui, alors Alba, parce que le symbole de l'Empire et du Premier Empire, c'est l'aigle, voyons. Mmh. Alors Victor Hugo lui prend un malin plaisir à faire état de cet épisode dans Napoléon le Petit. Le 6 août 1840, jour de son arrivée en France en provenance d'Angleterre, Louis-Napoléon embarqua dans ses bagages un chapeau identique à celui que portait son oncle Napoléon Ier, ainsi qu'un aigle dans une cage. Il accrocha un morceau de lard sur son chapeau afin que l'aigle, attiré par le fumet du lard, vienne s'y poser, montrant par là aux spectateurs médusés que ce noble animal, symbolisant l'Empire, avait reconnu son maître dès que celui-ci avait posé le pied sur le sol français.
Mais vous l'avez dit, Clémentine, cette piteuse équipée s'acheva au fort de Ham, où Louis-Napoléon passa si longues années.
Et il s'en évadera en empruntant les vêtements et les papiers d'un maçon nommé Badinguet, nom dont on le surnommera lui-même avec mépris par la suite. Il ira se réfugier en Angleterre. Voilà. Napoléon III, si vous entendez parfois dire de lui c'est Badinguet, c'est le nom de ce maçon dont il a emprunté les vêtements pour s'évader du fort de Ham.
Bien joué, Marie et Alba. Vous avez 1 minute 20 pour la finale. Il y aura 3 questions. Et là, pour vous, la délivrance et le bonheur absolu que de passer un séjour pour 4 personnes au Puy du Fou. Tout ça dans un moment.
En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 14h30, Laurent Boyer sur RTL, le grand quiz des histoires de France.
Avec Marie et Alba, elles ont tout raflé, l'ordinateur portable, l'intégralité des livres historiques, la Rouxelle joue maintenant pour ce séjour au Puy du Fou. 2 adultes et 2 enfants pour un séjour pour 4 personnes. Hein. Villa gallo-romaine, l'intégrale, le parc complet, la Cinécennie, ça c'est magnifique, 3200 bénévoles. Ça fait cette année, c'est 35 ans, la Cinécennie, il va y avoir de la régalade dans l'air. Là, vous allez vous éclater quand on raconte le destin symbolique de cette famille du Moyen-Âge à la Seconde Guerre mondiale. Vous allez vous régaler. On vous le souhaite, les filles. Comment ça va, Marie et Alba?
C'est toujours le grand stress.
Oh, mais vous avez tout gagné, les filles, les dames.
On est déjà très heureuses de ce qu'on a gagné.
Écoutez, moi, je vous le souhaite, ce Puy du Fou, parce qu'on aime tellement ça avec Clémentine. Vous voyez, quand on aime l'histoire et la nature, on est vraiment heureux ici. Alors, 1 minute 20, attention, c'est parti, vous allez voir, ça va être très simple. C'est parti. Quel Premier ministre anglais promettait du sang, de la sueur et des larmes dans un célèbre discours le 13 mai 40? En 40, qui est Premier ministre, Marie, en Angleterre?
J'en sais rien.
Écoutez... Pendant la guerre, 40.
Le Premier ministre britannique pendant la dernière guerre.
Blood, sweat and tears, c'était oui. Ça le texte, du sang, de la sueur et des larmes. Mais le ministre anglais, pendant la Seconde Guerre, qui...
Enfin, Churchill.
Bravo. Ah oui, voilà.
Quel pape est victime d'une tentative d'assassinat le 13 mai, jour anniversaire, 1981?
Ah oui, ça je sais, c'est Jean-Paul II.
Bravo.
Oui.
De quel empereur, le cardinal Joseph Fesch, était-il l'oncle? Un empereur français, faites le compte, il n'y en a pas beaucoup.
Oui, il n'y en a pas beaucoup.
Ah non.
Il n'y en a qu'un seul.
Non, il y en a trois.
Non, il y en a deux. Non, il y en a deux.
Alors là, oui. Non,
ah, Louis-Napoléon.
Pardon?
Alors
non,
lequel? Allez-y, vite.
Non, je pense le troisième.
Napoléon III.
Non, un autre.
L'autre.
Napoléon Ier.
Oui.
Bravo. Ah, très fort, bravo. Bah dites donc.
Oh, hein. C'est tout, j'en étais.
Bah oui, 10 minutes pour trouver Napoléon Ier.
Mais non, vous avez dit Charlemagne, Napoléon Ier, Napoléon III.
Oui, mais enfin, est-ce que vous croyez que le cardinal Fesch était l'oncle de Charlemagne?
Napoléon III, mais non, c'est pas possible. Le cardinal
alors,
Joseph Fesch.
Un peu travailler, monsieur. Hein.
Non, mais je vous ai dit 3 empereurs. Voilà, il n'y a pas beaucoup de choix, donc ça pouvait que taper là où il fallait. Bah, dites donc, ça, c'est... vous avez été très ému, hein, Marie, c'est pour ça, parce que les réponses, vous les aviez. Churchill,
oui,
ça c'est.
Non, mais
c'est la trouille qui vous a fait oublier.
Ah oui, c'est
Churchill.
Pas que vous ayez bloqué sur Churchill. Hein,
parce ah, ça ne l'est pas.
Ça devrait être quasi pavlovien, Churchill.
Oui, mais.
Bon, écoutez, Marie et Alba, avec votre fille, vous avez été de très bonnes compétitrices.
Et là, mesdames, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir vous dire que vous allez venir ici et dans cet endroit que nous aimons tant avec Laurent. Et vraiment, on se réjouit pour vous à l'avance de l'émotion que vous aurez en découvrant ces lieux et tous les spectacles du Puy du Fou.
Vivant, hein, au milieu de la nature.
Vous allez baguenauder dans les campanules entre la reine et la fontaine et les vikings emportant les reliques.
Et vous verrez le bal des oiseaux.
Voilà,
oh là là. Mais nous, on en a dans le rêve. Je vous enverrai une photo.
Hein.
Merci beaucoup à vous, les filles.
On est ravis. Vraiment, un grand merci.
Vous avez été très bonnes, les filles. Bravo. Et Alba est excellente à 13 ans, vraiment. On vous embrasse, les filles. Envoyez-nous une photo.
Hein. Félicitations.
Oui, promis, bien sûr.
Oui, s'il vous plaît, régalez-vous. On a rendez-vous la semaine prochaine, ma Clémentine, 13h30. Hein, on fait
absolument,
ça.
Absolument, avec joie.
Vous avez tout sur RTL.fr.
On va parler d'Égypte, je crois.
Oui, on va faire une spéciale tout en camon. Écoutez, les amis, tout sur RTL.fr. Les questions, nos intentions de bibliographe, de biographe, de tout.
Nos intentions de lecture, pardon. Moi, j'ai l'intention de lire un certain nombre de livres, mais je n'ai pas le temps.
Rentre dans ta chambre. Allez, rendez-vous la semaine prochaine à 13h30 dans un instant. C'est Eric Jean-Jean pour sa liste préférée. Ce sera évidemment sur RTL. Bonne journée sur RTL.
En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.